bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8 heures sur les ondes de Galère. Anthony au micro, accompagné de Christian. Nous serons tout simplement en duo ce matin exceptionnellement et on est ravis évidemment de vous accueillir, auditeurs, auditrices, sur les ondes du 88.4 mais également du www.radiogalère.org et pour ceux qui possèdent la RNT, c'est le canal 8C. Bonjour à toi mon cher Christian.
Oui, bonjour Anthony, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère.
Exactement, tu fais bien de les saluer. On rappelle évidemment que ce journal, c'est également le vôtre. Vous avez la possibilité de réagir à l'antenne 04 91 08 28 10. N'hésitez pas de donner votre avis, qu'il soit convergent ou divergent par rapport à nos opinions. Vous avez le droit évidemment de réagir.
Le devoir aussi.
Et le devoir de réagir.
Le droit et un devoir de réagir.
Exactement. Et puis vous avez, pour le réseau de Radio Galère, vous avez l'occasion de m'envoyer, l'opportunité de m'envoyer des SMS. Donc vous êtes évidemment les bienvenus pour réagir à l'antenne et pour donner votre avis sur l'actualité nationale notamment. Alors un menu spécial aujourd'hui, auditeurs, auditrices. On va faire un petit cadre d'actualité dans lequel on va balayer l'actualité hexagonale. On aura l'occasion de recevoir, et on est ravis, à partir de 8h15, Claude Chamichian, qui est le directeur artistique et qui a créé le festival Les Émouvantes. C'est la troisième édition que nous recevons à la radio. Ça, c'est la septième.
C'est une réussite,
pour eux.
Ce festival.
C'est une vraie réussite, en effet.
Oui.
Claude Chamichian est contrebassiste, compositeur, et c'est toujours un plaisir, en tout cas, de le recevoir. Il sera avec nous dans un petit quart d'heure pour près de 20 minutes pour nous parler de ce festival qui démarre ce soir et jusqu'au 21 septembre, notamment au théâtre des Bernardines, qu'on connaît très bien, pour les Marseillaises et Marseillais.
Il va dire sans sa contrebasse.
Sans sa contrebasse.
Malheureusement.
Oui. Oui, exactement. Pour, mais bon, vous aurez l'occasion de l'écouter, notamment avec un solo qui aura lieu samedi soir.
À ne pas rater, bien sûr.
À ne pas rater. Ensuite, évidemment, on aura le dossier social à 8h45 jusqu'à 9h25. On recevra le supermarché coopératif, en l'occurrence le Super Cafouche. On en avait déjà parlé, ils étaient déjà venus l'année dernière. Le projet avance, de plus en plus de personnes, en tout cas, souscrivent.
Il grandit, oui, ils grandissent.
Exactement,
projet.
Ils grandissent. On rappelle que c'est un supermarché coopératif qui est évidemment aux antipodes des grands marchés de distribution. Pour donner des marques,
aux antipodes
Carrefour,
de la malbouffe surtout.
Aux antipodes de la malbouffe, évidemment.
Et oui, aussi.
Évidemment. Donc voilà, ils prônent évidemment des valeurs importantes, mais notamment des valeurs liées à l'éco-citoyenneté, à l'éco-responsabilité, et avec des produits évidemment de qualité,
de très bonne qualité,
sains,
bien sûr,
évidemment, et accessibles. Voilà, c'est important de le rappeler. On aura l'occasion de recevoir Stéphane, Bernard et Lucille sur les ondes de Galère, et puis on conclura notre matinale par un dossier sensible, SOS Méditerranée. Rappelez-vous évidemment de l'Aquarius qui n'existe plus désormais. Il s'appelle l'Océan Viking. On aura l'occasion de recevoir Sarah et Philippe qui sont membres du CA et qui vont nous parler tout simplement de l'avancée, de l'après-Aquarius, de l'actualité notamment récente des opérations en mer. Et on aura l'occasion de parler avec eux évidemment.
Et à faire appel aussi à votre générosité et aussi à... Peut-être
qu'ils
ont besoin
fait.
D'un coup de main aussi. Hein. Ils ont besoin de bénévoles aussi. Ils vont le dire sur cette antenne.
Exactement, important de le rappeler. Allez, on démarre l'actualité, mon cher Christian, avec le volet hexagonal. Et notamment, on rappelle que le 21 septembre, c'est-à-dire samedi, une vraie mobilisation générale pour le climat, avec plus de 60 organisations écologistes et sociales, appellent à se mobiliser massivement et à faire monter d'un cran le rapport de force avec l'État.
Eh oui, voilà, c'est donc plus de, comme tu l'as dit, il y a plus de 60 organisations écologistes, mais pas que, hein, c'est-à-dire il y a aussi du social, il y a des syndicats qui se sont joints aussi qui vont se joindre à cette manifestation. Donc vraiment, c'est un appel à une mobilisation générale, comme tu l'as dit. Et bon, on le voit bien, bientôt on est au mois d'octobre, et on est toujours pratiquement dans la canicule.
Oui.
Donc celui qui veut nuer le réchauffement climatique, à mon avis, c'est très difficile en ce moment. Donc il faut vraiment se mobiliser. Et le 21 septembre, les auditeurs de Radio Galère et tous ceux qui sont, ont cette sensibilité doivent se mobiliser sur toute la France. Et je ne sais pas, peut-être ça peut dépasser les frontières, Anthony.
C'est ce qui est prévu.
C'est un appel au niveau mondial, hein, finalement.
Oui, exactement. Et on rappelle qu'il y a de nombreuses actions qui sont organisées partout en France. Évidemment, le 21 septembre, il y aura des marches, en tout cas, par milliers dans les rues pour dénoncer en fait l'inaction climatique du gouvernement et exiger simplement une justice sociale. Alors évidemment, Depuis la COP21, on parle beaucoup évidemment de l'écologie, de la préservation de l'environnement, mais surtout d'une conscientisation du danger qui nous guette, ou qui est d'ailleurs déjà présent. Et il y a des possibilités, en tout cas il y a des alternatives pour contrarier le climat, bien qu'évidemment on se dit qu'on ne peut pas grand chose contre la nature, mais si on est
si
capable...
Si c'était que la nature, c'est plutôt nous qui sommes responsables.
Oui, tout à fait. Exactement. Alors en plus, cette marche évidemment, elle sera engagée, elle sera festive, elle sera familiale, mais elle est là aussi pour essayer de déclencher aussi une conscientisation du danger, et puis surtout pour dénoncer la vraie inaction climatique du gouvernement, parce qu'on le rappelle, depuis la COP21 et notamment du sommet à Paris, où on avait pris des dispositions exceptionnelles et conséquentes
qui n'ont pas été tenues. Aucun des pays signataires de cette convention, il faut rappeler. Hein.
Mais tu fais bien de l'évoquer, et on nous parle, Christian, tu vas nous en dire peut-être deux mots, c'est tout simplement, on est dans un système destructeur pour l'humain et le climat.
Exactement, on est un système pour l'humain, parce que les hommes en subissent les conséquences. Il y a des pays, bon, nous en France, on subit un peu de chaleur peut-être, c'est ça, on souffre de la canicule, mais dans d'autres pays c'est catastrophique, hein. On peut le voir avec la recrudescence par exemple des ouragans, des typhons, etc., qui sont liés au réchauffement climatique. On peut le voir aussi avec des pays qui sont pratiquement submergés par la montée des eaux, c'est les petites îles dans le Pacifique. Donc on voit qu'il y a des conséquences extrêmement graves. Et on va parler de SOS Méditerranée, c'est une des conséquences aussi des réfugiés aussi, c'est des réfugiés aussi climatiques qui vont arriver sur nos côtes. Et il faudra les secourir, parce qu'on est responsable justement de cette situation.
Ah bon, on est complètement responsable, et on a des possibilités en tout cas de contrarier
On a peu de possibilités, mais en tout cas il faut s'exprimer pour faire bouger les gouvernements, parce qu'à notre niveau, bon, on peut agir aussi, hein, c'est vrai, chacun peut faire quelque chose à son niveau, mais aussi les gouvernements qui sont les maîtres du jeu, et c'est à eux aussi de se bouger.
Ah ben c'est eux qui ont les moyens et qui peuvent en tout cas au moins bouger les choses, voilà, donc affaire à suivre, notamment cette grande marche
le samedi 21 septembre.
Voilà. Tout à fait. Toujours dans le volet hexagonal, avec une trajectoire à l'international, mais ça concerne toujours la France, qui est appelée à cesser les ventes d'armes à l'Arabie et au... Tu vas me le dire, mon cher Christian, Émirats Arabes Unis.
Voilà les Émirats
Donc,
Arabes Unis.
C'est important parce que 17 organisations non gouvernementales ont de nouveau pressé la France de cesser immédiatement toute vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, notamment par rapport au rapport de l'ONU sur le Yémen, qui vit d'ailleurs un drame sans nom depuis des années, Christian.
Et oui, ces organisations humanitaires et de défense des droits humains ont dit réitérer leur appel à... suite à la lumière de deux événements majeurs, c'est-à-dire la mort de plus de 100 détenus dans un raid aérien à Damar dans l'ouest du Yémen, et aussi la publication de ce fameux rapport du groupe d'éminents d'experts sur le Yémen de l'ONU, qui a nouveau démontré l'ampleur des violences des attaques contre les populations civiles du Yémen et l'urgente nécessité pour des pays comme la France de cesser d'alimenter le conflit en armes. C'est ce qu'elles expliquent. Alors, il n'y a pas que la France qui fournisse des armes. Hein. Il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a aussi l'Allemagne. Bon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont arrêté de fournir des armes. La France et les États-Unis continuent malheureusement d'envoyer des armes dans ce conflit au Yémen, qu'on rappelle qui est une catastrophe humanitaire selon les Nations Unies. Et suite aux événements récents aussi, à ce qui s'est passé avec ces attaques sur l'Arabie Saoudite, sur les complexes pétroliers, qui en ce moment dont on parle beaucoup et qui risque de faire monter le prix d'essence, enfin, on ne sait pas encore, mais bon, ce qui perturbe, disons, le trafic du pétrole dans le monde, on voit bien que la France est vraiment impliquée dans ces VR, parce que c'est aussi avec ses armes et son armement qu'elle contribue à maintenir et à faire continuer cette guerre au Yémen, qui est catastrophique pour le pays et la population civile.
Tout à fait. Et on rappelle que le groupe d'experts qui a été créé par le Conseil des droits de l'homme déjà depuis 2017 a tout simplement fustigé dans un rapport une multitude de crimes de guerre qui ont été commis depuis 2014 au Yémen, et notamment une coalition menée par l'Arabie Saoudite. Donc on veut tout simplement dire à la France d'arrêter de faire un transfert d'armes par la France notamment, ou le Royaume-Uni, les États-Unis ou d'autres États, parce que évidemment ça engraine et ça développe davantage.
Ces armes servent justement
à tuer
et puis à maintenir le pays dans une pénurie, parce que c'est un blocage qui est fait au niveau des ports, et ça entraîne une sous-alimentation, et c'est en premier ce sont les femmes et les enfants qui en subissent les conséquences.
Exactement.
Tu as parlé de la Grande-Bretagne. Londres a suspendu en juin toute vente d'armes à l'Arabie Saoudite.
Mais voilà une bonne...
Oui,
d'ailleurs
voilà.
On en a peu parlé, et c'est une excellente initiative, et il serait quand même opportun besoin que la France puisse faire la même chose. On rappelle que beaucoup d'organisations sont signataires, en tout cas, de cet état de fait, et que notamment la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Médecins du Monde, Yemen Solidarity Network et Norwegian Refugee Council appellent instamment le gouvernement français à suivre l'exemple britannique, mon cher Christian.
Eh oui, et quand on a parlé de la Grande-Bretagne, c'est la Cour d'appel de Londres qui a jugé illégal ces transferts d'âmes. Alors, est-ce qu'il y a un contre-pouvoir aussi en France, justement pour contrer le gouvernement qui livre ces âmes? On n'entend pas, il n'y a pas le Parlement, par exemple, devrait se saisir de cette affaire et faire en sorte de faire cesser cette vente d'armes. Mais bon, apparemment, le Parlement est à la botte des gouvernants et de ceux qui nous gouvernent, puisqu'il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Et on sait pertinemment, avec preuve à l'appui, que ces armes fournies par la France contribuent à la situation dramatique du Yémen.
Complètement. Allez, on se dirige vers Marseille. On vous rappelle
Marseille. Qu'est-ce qui se passe ?
Cinq petites minutes, on aura le plaisir de recevoir Claude Chamitian, qui est déjà dans notre studio, pour nous parler du Festival Les Émouvantes qui démarre ce soir et jusqu'au 21, c'est dans 5 petites minutes sur les ondes de Galère. Mais juste avant, 4 ministres étaient hier à Marseille, Christian, pour lancer le nouveau plan national de lutte anti-drogue. Alors évidemment, c'est une campagne de communication.
Ils n'ont pas choisi Marseille pour rien aussi, je suppose.
On n'a pas choisi Marseille pour rien parce que c'est une plateforme évidemment énorme.
Malheureusement.
Et malheureusement, avec une économie souterraine conséquente, on en est tous conscients. Et d'ailleurs, nous, même si on est néophyte à la matière et qu'on n'est pas associé ou en tout cas dépendant de ces drogues, on connaît les lieux. En tout cas, pour se fournir, et c'est quand même assez inquiétant, parce que ça développe évidemment une économie souterraine, mais derrière quoi ? Ben des crimes, des règlements de comptes, et évidemment une population qui souffre de ces situations-là. Donc, suite aux événements qui sont notamment qui sont survenus le week-end dernier dans les quartiers nord de Marseille, on rappelle que 6 hommes ont été blessés dans la cité des Rosiers, que la sénatrice Samia Ghali avait réclamé la tenue d'un comité interministériel sur la sécurité à Marseille. Eh bien, tout simplement hier, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ministre de l'Action, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Laura Nunez, secrétaire d'État, étaient en visite pour annoncer un nouveau plan national de lutte anti-drogue. Certains diront, Christian, qu'il peut rester illusoire et que c'est une campagne de communication, en tout cas pour un petit peu, tout simplement, jouer le jeu, un petit peu de démagogie politique. Il n'en demeure pas moins qu'on connaît les réels dangers de la drogue à Marseille et que depuis des années, on laisse périr volontairement, on peut le dire parfois, puisqu'on connaît les lieux, mais malgré tout, le marché se poursuit, Christian.
Le marché se poursuit, alors voilà, donc il y a eu ce fameux conseil hier sur Marseille, mais qu'est-ce qui va en ressortir ? Un plan a été établi avec plusieurs mesures, bon, ces mesures, peut-être ils vont avoir de l'effet, mais on sait bien que c'est très, très difficile de lutter contre le fléau de la drogue, sachant pertinemment que malheureusement dans les quartiers qui sont paupériser, la drogue c'est aussi un substitut au niveau du mensuel pour un gain mensuel, parce que c'est souvent les quartiers où il y a le plus de chômage qui sont touchés, et justement la population est dans une grande pauvreté, et finalement le commerce de la drogue c'est ce qui permet de maintenir en survie la population de ces quartiers. Alors c'est dramatique, mais malheureusement qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là ? Je pense que c'est simplement une réponse sociale qui pourrait être faite au niveau de la drogue, c'est-à-dire que si finalement ben, les gens retrouvaient du travail, s'il y avait du boulot, si ces quartiers avaient un peu plus de richesse et on s'occupait un peu mieux d'eux, ben, les gens se tourneraient moins vers des actions illégales et par exemple le trafic de drogue. Donc on va voir ce qui va se passer avec ce nouveau plan, mais comme tu l'as dit, ça peut être un peu démago ou un effet d'annonce, mais bon. On va voir sur le terrain ce qui va se passer à Marseille et ailleurs, parce qu'on dit on pointe Marseille du doigt, mais il n'y a pas que Marseille qui est touchée par ce fléau. Hein. Toutes les grandes villes, il y a des trafics de drogue qui se passent. Et vraiment, Marseille, c'est la vitrine, malheureusement, de la France avec ce qui se passe, mais il ne faut pas désigner Marseille comme la coupable nationale du trafic de drogue. Un petit mot encore sur... on va parler de SOS Méditerranée qui va venir bientôt sur ce plateau. Il y a une petite remarque à faire, c'est que l'Italie a autorisé 82 réfugiés de l'océan Viking à débarquer à Lampedusa. Alors ça c'est une première, c'est dû simplement à ce que le fait que Matteo Salvini, qui était jusqu'à présent ministre de l'Intérieur de l'Italie a été débarqué en quelque sorte, pour prendre une expression maritime, et le nouveau gouvernement a décidé de rouvrir les ports à l'accueil des réfugiés. Et ça, c'est une première pour l'Italie depuis longtemps, puisque ces ports étaient fermés, étaient bloqués. Et on salue justement ce nouvel gouvernement qui décide enfin de soutenir un peu et d'accueillir les réfugiés qui sont recueillis par ces bateaux, tels que ceux qui sont affrétés par SOS Méditerranée. Mais on y reviendra avec SOS Méditerranée.
Tout à fait, on y reviendra.
On accueille sur notre plateau.
Tout à fait, on est ravis d'accueillir, tout à fait, notre invité de la matinée, Claude Tchamitian. Je vous l'avais évoqué précédemment, voilà. Mais on est ravis de l'accueillir. Claude Tchamitian est le directeur artistique du Festival Les Émouvantes, créateur d'ailleurs du festival. Il est évidemment contrebassiste et compositeur de haut vol, de qualité, voilà, on tient à le signaler, et il est avec nous c'est son troisième passage sur les ondes de Galère. C'est la septième édition du Festival des Émouvantes, et nous on l'a pris un petit peu en route depuis trois ans désormais.
On les suit de près.
Je salue d'ailleurs Dominique Abdeslam qui fait un boulot remarquable, avec laquelle j'ai pu préparer le dossier, et puis toujours le côté enthousiaste et réactif de Claude Tchamitian. Bonjour Claude.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. Merci d'être là, si tôt ce matin, sur les ondes de Galère. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On va parler évidemment du festival Les Émouvantes. Si on parlait uniquement de votre parcours et de votre carrière, il nous faudrait peut-être
Il nous faudrait des heures.
Voilà. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ignorent le travail artistique de Claude Tchamitian, à tout simplement aller vous taper sur Google, et vous allez pouvoir apprécier en tout cas le parcours et la qualité de l'artiste. Alors je sais qu'en règle générale, il n'est pas fan des compliments, mais nous on dit les choses avec transparence sur les ondes de Galère.
Parce que c'est pas lui qui va dire ça, donc on est obligé
voilà,
de le dire
à sa place. On peut le dire pour vous, mais en plus, je ne suis pas du tout un expert en musique, hein, je tiens à le signaler. Mais par contre, nous on se renseigne depuis désormais trois ans, et on écoute aussi, et on sait que, comme on dit à Marseille, c'est du lourd. Voilà, Claude, tout est dit. On va présenter, dans un premier temps, nous parler de la structure Les Émouvantes, et puis direction le programme du 7e festival qui démarre ce soir et qui sera bouclé samedi, avec notamment un solo de votre part au Bernardines. On va parler un petit peu du thème, on va parler le thème qui est au jeu cette année, la transformation et le hasard. Voilà Claude, la parole est à vous.
Tout un programme.
Tout un programme, exactement.
Merci beaucoup en tout cas Galère, à vous de nous suivre depuis maintenant trois ans.
Merci à vous de venir régulièrement aussi.
C'est très important que, comme ça, des énergies qui sont sur place, sur le territoire, puissent collaborer. C'est ce qui fait le sel et la moelle absolue du travail qu'on mène les uns et les autres, qui est totalement complémentaire. Alors sur Émouvance, cette année c'est une année un petit peu spéciale parce qu'on fête nos 25 ans.
Oui, exact.
Et aujourd'hui, par les temps qui courent, avoir une association artistique qui diffuse des projets, qui en crée, qui a un label d'édition discographique avec la situation actuelle de la musique enregistrée.
Oui, il faut pas l'oublier en effet.
Qui propose des projets qui vont dans le monde entier, principalement en Europe et en Europe du Nord, mais qui vont aussi dans le monde. Bon, c'est quelque chose qu'on est assez fiers d'avoir réussi à se renouveler, exister toujours au bout de 25 ans.
Donc, c'est une preuve de qualité ça, quand on
dure
de
oui.
temps, oui.
J'espère. Ce sera au public d'en juger. En tout cas, pour nous, on est très contents. On a la chance d'être suivis par aussi beaucoup de gens qui nous aident dans le travail. Et cette structure, depuis le début, en fin de compte, elle a été créée dans la forme qu'elle a là aujourd'hui. C'est-à-dire, bien sûr, promouvoir des musiciens qui nous intéressent, mais également...
Il y a ce qu'on appelle des branches qui travaillent autour du bon fonctionnement du projet. Et c'est aussi une manière de participer à la construction du projet. Alors, par exemple, des branches, on en a des thématiques différentes.
Oui, des branches de travail, communication, informatique,
approvisionnement.
Enfin voilà, ce qui intéresse, zéro déchet.
Voilà, donc on peut choisir finalement qui va nous approvisionner, c'est-à-dire on peut choisir... Alors comment vous faites? Vous avez des contacts avec des producteurs locaux? Comment, je ne sais pas, expliquez-nous alors.
Il y a quelques contacts en direct avec certains producteurs, et il y en a d'autres via des distributeurs comme PPL, qui est la plateforme paysanne locale, qui eux réunissent déjà plusieurs producteurs de la région et nous distribuent Et parfois, c'est même en fait... On a tendance à un peu fantasmer sur le côté contact direct, etc. Ça, c'est très bien au marché. Mais par contre, pour une distribution comme la nôtre, si on fait du contact direct pour chacun, en fait, c'est pas très écolo, en fin de compte. Ça fait autant d'approvisionnements différents. Eh oui, alors qu'un distributeur centralise tout. Donc, c'est pas plus mal.
C'est un vrai professionnel. Hein.
On apprend. Non, mais on apprend.
On devient professionnel.
En plus. On apprend beaucoup de choses au Super Gaffo, tu vois.
Ouais, si on est curieux, il y a vraiment
C'est un lieu d'apprentissage, c'est sûr.
Ouais. Et en tout cas, pour répondre à ta question sur la modalité en fait de souscription, en fait, il y en a plusieurs. On s'adresse soit aux personnes qui souhaitent participer, faire leurs courses, faire vivre le supermarché. Ça, c'est vraiment la part de participants, on va dire. Et il y a aussi des parts de soutien qui peuvent aussi s'adresser aux personnes morales. C'est ça, donc les associations, d'autres structures qui souhaitent nous soutenir, mais qui ne viendront pas faire leurs courses. Et aussi une part qu'on a appelée un peu la part investissement, où des gens investissent, je crois que c'est à partir de 2000 euros, je ne sais plus exactement, et qui ont un petit retour sur investissement.
Un petit bénéfice sur ce qu'ils ont passé dans ce projet.
Voilà, qui est encadré et qui n'est pas, comment dire, qui de toute façon ne se fera pas avant quelques années, je crois, parce qu'il faut d'abord que le projet se lance.
Voilà. Mais vu le taux des intérêts maintenant, c'est un bon placement. Hein.
Voilà.
Oui, les taux sont historiquement bas, oui.
Le taux de rémunération, pour compléter le taux de rémunération qu'on prévoit, et de 1,5%.
C'est royal, c'est royal par rapport à aujourd'hui.
C'est deux fois livré.
C'est deux fois livré.
Avis à tous les badlaines qui traînent. N'hésitez pas à investir dans le Super
Cafouche. Il faut placer notre argent là.
Mais bon, Lucille le disait, le modèle économique est vraiment basé sur la participation du plus grand nombre. Donc ce sont le modèle de part A qui est le plus important, avec des gens qui viennent faire leurs courses, qui donnent leurs 3 heures. Et c'est ce modèle économique qui nous permettra de vendre les meilleurs produits au meilleur prix.
Alors moi, mes souvenirs, je crois que c'est un concept qui vient des États-Unis. Alors, vous pouvez me dire un petit mot là-dessus. Alors, comment ça se fait pour traverser l'Atlantique et venir jusqu'à Marseille, jusqu'à la Méditerranée? Expliquez-nous un petit peu. Qui a eu cette idée?
Eh bien, déjà, en fait, donc les États-Unis, je crois que c'est en 1975, c'est ça?
Oui, déjà, les Américains sont toujours en avance.
Voilà, et en fait, pas de surprise, c'est un Américain qui l'a amené en France et qui l'a amené à Paris en premier
lieu. Donc il y a un truc comme ça qui est déjà à Paris qui fonctionne.
Voilà, et qui vraiment
très bien,
avec beaucoup de succès. Quel
arrondissement?
Du côté de Poissonnière, oui.
D'accord.
La Louve, ça s'appelle.
Okay. Voilà, et en fait, je pense que c'est même plutôt des gens qui étaient coopérateurs, qui ont déménagé de Paris, et que c'est ces gens-là
sur Marseille, peut-être dans d'autres villes, est-ce qu'il y a d'autres villes où il y a des...
Oui, il y en a.
Il y a une quarantaine de projets en France aujourd'hui.
Quarantaine de
projets. Et puis, il y en a de nouveaux qui naissent.
Marseille instigatrice. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de voir aussi qu'il y a des villes, en tout cas, qui se lancent. Alors, je suppose que c'est pas évident au départ. Est-ce qu'il y a des corrélations qui sont créées, des connexions avec...
C'est une multinationale, alors.
Peut-être.
C'est pas une multinationale.
C'est un gros mot.
Attends, les projets sont indépendants.
Tu vas te faire taper sur
mon guise. Mais c'est un réseau solidaire. Après, il y en a qui fonctionnent aussi par affinité. Évidemment, nous, on a beaucoup de liens avec la Cagette à Montpellier, notamment, et aussi avec la Louve qui nous a beaucoup accompagnés, beaucoup conseillés.
Mmh. Oui, on a des contacts aussi avec Toulon, par exemple, la Cop-sur-Mer. Il y a un projet qui est en train de naître à Aix, un autre à Avignon.
Donc ça essaime un peu partout en France.
Il s'en crée un peu partout, oui.
Ça essaime, et ce week-end, justement, il y avait l'Intercop à Charleville-Mézières qui rassemblait tous les projets un petit peu similaires. Et ce qui est extrêmement sécurisant et rassurant, notamment avec Montpellier et Louvre, qui sont nos plus proches partenaires, c'est de voir que ça fonctionne, et ça fonctionne très bien.
Le bénéfice pour le consommateur, expliquez-nous-le. Est-ce que ça sera moins cher? Est-ce que ça sera de meilleure qualité? Ou les deux? Je ne sais pas. Alors, dites-nous un petit peu.
Le bénéfice pour le consommateur, c'est déjà d'avoir à sa disposition des produits locaux au maximum, des produits bio, des produits de qualité de manière générale, même si ce n'est pas que du bio.
Est-ce que c'est du vrac ou c'est des conditionnés? On discute beaucoup sur cette affaire-là. Il y aura les deux.
Il y aura les deux au maximum du vrac, chaque fois que c'est possible.
Pour mon plus grand bonheur.
Et surtout des prix le plus bas possible, parce que nous limitons notre marge à 23% de marge brute, justement parce qu'on fait fonctionner la boutique de manière bénévole.
Oui, ça c'est important.
Donc on réduit les coûts de gestion. Il faut aussi rappeler encore une fois...
Il n'y a pas de personnel, en gros.
Si, il y aura des salariés.
Il y a des salariés.
Il est réduit. On estime que 80% des tâches seront faites par les 3 heures que chacun donnera tous les mois.
D'accord.
Voilà. Et le 20% restant, ça sera des salariés. Mais il faut encore rappeler, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, il y a enfin voilà, tout un tas de coûts comme ça qui disparaissent et qui nous permettent de faire des prix beaucoup plus bas que ce qu'on peut trouver.
Et les producteurs viennent livrer directement, il n'y a pas d'intermédiaire, je suppose aussi. Comment ça se passe?
Ou comme les deux, vous privilégiez comme les circuits courts, hein, on est d'accord avec ça.
C'est la base.
Court,
oui.
On est bien d'accord, oui, c'est un choix et c'est une opportunité en tout cas pour l'ensemble des Marseillais et Marseillaises. Donc on vous invite vraiment à vous y rendre. Il y avait une cotisation qui est moindre d'ailleurs, Bernard, on en avait parlé. Alors Stéphane, en tant que chargé de développement, peut-être peut nous dire deux mots, ou Bernard
Cette adhésion à l'association n'a plus lieu d'être. Dès lors que vous devenez coopérateur et que vous rejoignez le projet, vous êtes de fait membre de l'association, mais il n'y a plus d'adhésion annuelle que vous à fond perdu. Il y a une prise de part à vie. Que vous conservez.
Vous devenez actionnaire en quelque sorte.
Vous devenez actionnaire, mais elle est donc à vie et elle est récupérable si un jour vous voulez quitter le projet. Donc il y a quelque chose de plus durable dans le pas que vous faites en avant en rejoignant cette coopérative.
Et ça, c'est intéressant. Oui, peut-être Lucille qui veut ajouter, Bernard.
Non, mais notamment, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, parce qu'en effet, cette souscription, elle est d'un montant de 100 euros, ce qui peut vraiment beaucoup impressionner des gens, parfois, quand ils entendent, oh là là, 100 euros.
Ouais, mais pourquoi 100 euros, alors? Vous auriez pu faire plus petit. Ouais,
mais c'est largement justifié.
Alors déjà, parce que c'est aussi des parts d'investissement. On va quand même se servir de ces fonds-là aussi pour lancer le projet de supermarché, donc c'est quand même important. Et c'est vrai qu'on a un peu suivi ce qui se faisait déjà, tout simplement. Et après, pour ce qui est, voilà, c'est 100 euros, mais en effet, c'est à vie, récupérable le jour où vous souhaitez le récupérer. Donc, enfin, voilà, c'est pas perdu.
Donc, on peut pas perdre ces 100 euros.
Voilà, on peut le payer en plusieurs fois quand c'est pas possible pour tout le monde de payer 100 euros d'un seul coup.
Donc, on peut être le gagnant en plaçant ces 100 euros dans.
Mais voilà, enfin, pour moi, c'est tout gagnant. Mais...
c'est tout gagnant, c'est ça.
Et puis, rappelons-le, cette marge de 23%, elle permet de faire fonctionner le projet, mais elle ne génère aucun profit. Donc, c'est les coopérateurs qui profitent, en fait, de ces produits au meilleur prix. Donc, on retombe très, très vite sur ses pieds.
Oui. C'est un merveilleux projet, ça. Voilà, ça, c'est vrai.
On en est convaincu. Si vous êtes sur les ondes de Galère ce matin, c'est qu'on croit à votre projet.
Merci à vous.
Mais non, mais c'est bien normal. Et puis, quand on avait reçu Bernard et Lucille, on était un petit peu au début, mais il y avait déjà, en tout cas, une vraie rigueur dans la structuration, dans le projet, dans l'ADN, en tout cas. On sent qu'il y a une identité, en tout cas, Super Cafouche. Voilà, un petit mot, puisque tout à l'heure j'ai eu une petite réaction, on nous parle du bio, on nous a parlé aussi du vegan avec un peu un côté un petit peu ironique, on y trouvera de la viande, le bio sera, j'allais dire, globalisé, ou voilà, est-ce qu'on peut en tout cas sectoriser les
français.
Différents produits, voilà.
Alors.
Est-ce qu'on reste sur des produits français aussi?
Oh,
non.
Pas exclusivement, notamment il y a du lait de coco. Je pense que malheureusement on n'a pas de noix de coco en France, c'est bien dommage.
Si, aux Antilles.
Ouais.
Et à Mayotte alors.
C'est
la France.
Mais c'est vrai.
Il y a une image que j'aime beaucoup qui résume un petit peu notre offre, c'est qu'on considère ce supermarché plus comme une bibliothèque. C'est pas notre rôle de dire aux gens ce qu'ils doivent consommer. On doit leur offrir le meilleur et on doit peut-être aussi leur offrir ce qu'ils attendent. Donc il y aura peut-être un petit peu de conventionnel. Là aujourd'hui, la majorité de nos produits sont bio, locaux, de saison, mais il y a quelques produits qui sont très attendus et sur lesquels on ne pourra pas faire l'impasse. Donc,
ce qui est totalement normal. Oui.
On ne leur dira pas quoi faire, on leur offrira le meilleur et ils pourront faire aussi un choix.
Est-ce
un
que
peu
le
plus
bio
large.
C'est quelque chose que vous allez mettre en avant régulièrement, ou justement la possibilité de dire il y a du bio, mais pas que?
Oui, c'est un peu ça, oui. Voilà. C'est majoritairement du bio, bien entendu, on essaie au maximum.
L'agriculture raisonnée, comme on dit aussi, c'est ça.
Oui, l'agriculture raisonnée.
Comme
aussi.
On dit, hein, je ne sais pas quoi les raisonner. Mais...
Non, et puis on connaît aussi des producteurs qui ne sont pas dans une démarche de labellisation AB, agriculture biologique, mais qui font le boulot.
Voilà, ouais, c'est important d'ailleurs de le distinguer parce qu'on oublie qu'on estime que ceux qui désormais ne sont pas du label AB, agriculteur bio, on se dit, oui, bon, eux, on les met de côté, on va marcher. Les marginaliser, les évincer du système. Alors qu'il y a en effet des producteurs et des paysans et des agriculteurs qui bossent très bien sans être forcément bio. C'est pas une condition sine qua non pour faire de bons produits. C'est peut-être mieux, mais c'est pas obligatoire. Et c'est important de le rappeler parce qu'on le dit jamais. Et d'ailleurs, les agriculteurs en souffrent parce que parfois certains ne font pas du bio parce qu'ils ne peuvent pas. financièrement parlant déjà, et ils souffrent de cet état de fait. Donc vous avez bien fait de le rappeler, Stéphane. Et
oui, merci Anthony de le souligner, parce que cette dimension pédagogique, elle va être très très importante chez nous, donc on va vous garder, hein. on va vous prendre avec nous.
Il n'a pas déjà une souscription.
Mais nous aussi on vous garde à l'antenne, et probablement dans, pour y revenir évidemment, pour refaire un point aux fêtes de Noël, voilà, hein, 3 mois, comment on avance.
Le chapon bio.
Le chapon bio, ouais, ça c'est une autre histoire, évidemment.
C'est une autre histoire.
On a 9h11, pardon, sur les ondes de Radio Galère, ouais. Toujours avec Super Cafouch. Il nous reste une douzaine de minutes et on veut en profiter. N'hésitez pas à réagir comme vous le faites.
On a parlé de, c'est un lieu de rencontre. Alors, est-ce qu'il y aura du culturel aussi? Est-ce qu'il y aura des échanges? Je sais, des fois, il y a des lieux comme ça où il y a un coin bibliothèque, un coin où on peut s'asseoir, boire un petit thé, discuter. Prendre un livre, etc. Est-ce que vous avez pensé aussi faire un peu cela dans ce super Cafouch?
Écoutez, c'est l'espoir qu'on a. Et
on en rêve,
On en rêve, et en tout cas, c'est déjà...
Ça ne sera pas tout de suite.
Il faut y aller à ce rêve-là.
Et rien qu'à l'échelle du mini Cafouch, bon, c'est très informel, mais ça se fait déjà. Hein,
quand vous aurez votre grand local dans le quartier Belsas.
On a une bibliothèque partagée, déjà.
Génial.
Bibliothèque partagée.
À notre petite échelle.
Donc, ce sera un lieu culturel aussi.
Oui, et puis...
Artistique, peut-être aussi.
Eh bien, on espère, on a plein de cagettes, appel aux artistes qui veulent faire des installations avec les cagettes.
C'est le principe que chacun apporte sa contribution. Si vous nous rejoignez, vous pourrez faire des propositions en sens. C'est un projet évolutif qui s'enrichit des propositions de chacun.
Voilà qui est là aussi. Nous, on reçoit beaucoup d'artistes confirmés et en devenir sur notre plateau. On va vous les envoyer si vous leur ferez aussi quelque chose, un lieu où ils peuvent s'exprimer. Pourquoi pas?
Eh bien, en sachant que pour l'instant, on a aussi des rendez-vous mensuels, des événements ou parfois ponctuels comme vendredi dernier chez Zoumaï.
Cet
été, il y a un groupe d'amateurs de bière du Super Cafouch, des membres du Super Cafouch qui ont concocté une bière spéciale avec la brasserie Zoumaï.
Génial. Consommer avec modération, mais c'est important de le rappeler, évidemment.
Une bière nommée Hopi Cafouch.
Une bière locale bio. Avec Zoumaï, qui est une brasserie indépendante de Marseille.
Avec des houblons français, s'il vous plaît.
Cocorico.
Et donc le lancement était vendredi chez Zoumaï avec un concert de Léo Ascenza qui est
des Rapigao.
On dit pas S, Raspi.
Mais Raspigao aussi.
Raspigao, oui, allez, pourquoi pas.
Qui nous a offert un super moment pour le lancement de cette bière, et ça a été un franc succès.
D'ailleurs, nous, Raspigao, on aime bien, et on aimerait bien qu'il vienne sur les ondes de Galère. Je sais qu'il y avait eu une possibilité.
Avec une caisse de bière, c'est ça, Anthony?
Non, mais ça peut être sympa d'avoir Raspigao. C'est super sympa, et puis ça va mettre la fête, et avec beaucoup de gentillesse. Et en plus, l'avantage, c'est que ils partagent vos valeurs, hein. S'ils sont là, c'est qu'ils partagent ces valeurs de partage, d'éco-citoyenneté, ça c'est une évidence.
Et voilà, donc on a la chance d'être entouré et de créer aussi des liens avec d'autres structures présentes à Marseille, des associations ou pas, mais qui soutiennent le projet et qui nous permettent de le faire connaître. Et c'est vrai qu'un moment comme vendredi dernier, qui est un moment de convivialité où en effet il y a de la musique, etc., où tout le monde peut se retrouver, c'est des choses qu'on aimerait à nouveau mener dans les mois et on l'espère années à venir.
Ça va se faire. Voilà.
On a fêté à cette occasion notre 200e coopérateur.
Voilà. Et sachant que voilà, en effet, on a beaucoup de soutien et de les gens ont l'air motivés par le projet.
Et après, la ville alors pas de soutien. Alors est-ce que la ville vous soutient? On va pas parler de Gaudin, mais
ils nous aiment
bien. Non, ils vont nous soutenir. Il n'y a pas de doute. Ça va venir.
Parce que ça, c'est une richesse pour la ville de Marseille, un projet comme le vôtre. Mais
évidemment.
Je crois qu'ils attendent de voir ce dont nous, on est capable seuls de notre côté.
Ils auraient pu vous fournir un local à la ville de Marseille, alors. C'est la moindre des choses, non?
Quand ils verront l'effet que ça va provoquer autour de nous, en plein centre-ville, derrière le vieux port, je pense que ça va les intéresser.
Mais oui, c'est ça. Voilà. C'est près de la mairie aussi. C'est pas loin tout ça.
On va aller leur présenter un petit peu plus le projet, vous avez raison.
Il faut monsieur Gaudin aller la pub pour longtemps, il faut lui présenter le projet avant qu'il s'en aille.
On a des rendez-vous très, très prochainement avec des élus, je crois que c'est cette semaine.
Mais justement, important, parlons un petit peu des relations que vous entretenez. Alors les soutiens, j'ai envie de dire, de la population, on les sent, mais avec le volet politique, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils parfois peuvent surfer sur la vague?
Est-ce que vous voulez aussi
voilà, est-ce que vous voulez? Dites-nous un petit peu ce qu'il en est.
Alors nous, on est tout à fait disposés.
Ah, vous voulez en plus, c'est ça.
tout à fait disposés à les rencontrer, bien entendu. Après, quel soutien ils vont nous apporter ? Ça, c'est à eux de le dire.
On commence à avoir des sollicitations, donc on est prêt à écouter.
Des noms, alors donnez-nous des noms. Ou c'est top secret, peut-être. C'est top secret.
On ne les a pas encore rencontrés, alors peut-être que c'est...
Voilà, on va
attendre. On vous dira en décembre.
On vous dira après, voilà.
Bon, pour l'instant, on reste au cadre. Allez, il nous reste encore 10 minutes. On peut en profiter. On peut parler de l'agenda, peut-être. Bernard, Lucille, Stéphane, ça peut être intéressant d'évoquer notamment les événements FRAC, les portes ouvertes. Voilà, de peut-être clarifier un petit peu tout l'esprit qui règne. Stéphane, peut-être qu'il y avait...
Oui, parce que vous parlez du FRAC qui est justement un soutien avec Yannick Sida qui tient l'Arrosoir, qui est un restaurant qui est sur le boulevard des Dames, et c'est lui qui a la chance aussi d'avoir le resto-brasserie du FRAC. Donc c'est un soutien de la première heure, et il nous permet parfois de nous réunir. Et là, ce samedi, il organise il va y avoir de la danse, il va y avoir de la pétanque, la boule bleue est là, Swinging Marseille aussi, et nous serons là aussi pour présenter notre projet. Et on le remercie, ce soutien, il est des plus précieux. Mais on a d'autres rendez-vous aussi dans les semaines qui viennent, où vous pourrez venir tous nous rencontrer, Lucille.
Oui, alors on a... Comme tous les mois, on en organise plusieurs fois par mois. On a une réunion d'information. La prochaine a lieu c'est mercredi, je crois, 25. Oui, mercredi 25.
À quel endroit ?
Au FRAC, justement.
Au FRAC.
Oui, tu as raison. Merci.
À quelle heure ?
À quelle heure ?
18h30.
18h30, ouais. Okay.
Ce sera Hugues qui l'animera.
Hugues, qui est donc un des deux salariés avec Stéphane du Super Cafouche et qui s'occupe notamment de l'épicerie, de l'approvisionnement, etc. Et puis de la vie... général du projet. Il sait très bien en parler maintenant, parce que ça fait maintenant un moment qu'il est dans le projet, d'abord en tant que bénévole. Et...
Ça, c'est mercredi, donc.
Donc ça, c'est mercredi prochain.
Ensuite, alors.
Et ensuite, on a les portes ouvertes, c'est ça ?
Portes ouvertes.
Alors, juste avant, on a notre apéro au Wow,
oui,
le 26.
Le jeudi 26.
Ouais, jeudi 26.
Dernier jeudi du mois, toujours un apéro avec le Super Cafouche. Donc c'est l'occasion de rencontrer les coopérateurs. Pour ceux qui ne sont pas encore... coopérateur, de venir aussi parler du projet peut-être d'une façon un peu plus informelle.
Voilà, ou des curieux,
oui,
tout simplement.
D'avoir des échanges, de pouvoir poser des questions. Je suppose que vous êtes évidemment à l'écoute. Hein, et puis, peut-être certains ont des craintes. J'ai envie de dire, ça peut se comprendre, mais vous allez vite être rassuré par l'équipe du Super Cafouche, j'en doute pas.
Voilà, et c'est pour ça qu'on essaye aussi de diversifier les lieux et les dates, enfin qu'il y ait le maximum d'endroits où on puisse se rencontrer pour discuter et pour justement... rassuré, s'il faut être rassuré. Mais...
Dernier moment aussi pour venir, pour ce mois-ci en tout cas, pour venir nous rencontrer, c'est on organise le samedi 28 entre 11h et 13h des portes ouvertes. Vous pouvez venir avec vos amis, vos colocs, voilà. Donc ce sera au Mini Cafouche, 14 rue Louis-Astoin, et ce sera un moment de convivialité au-delà de toutes les autres réunions et apéros dont on vient de vous parler pour apprendre à se connaître, répondre aux questions que les uns et les autres se posent, et puis passer le cap s'ils le souhaitent. Ils seront les bienvenus.
Exactement. Il nous reste 3-4 minutes. On peut en profiter peut-être pour développer peut-être des projets à venir. Une campagne évidemment de soutien, de bénévoles. On vous invite évidemment à vous rendre, et peut-être Bernard, qui a toujours la parole structurée et appliquée, peut-être dire deux mots aussi.
Il n'y a pas que lui.
Non, mais bien sûr.
Je veux dire que les autres sont déstructurés.
Non, mais il y a un super trio, j'en doute pas. Allez, on a 3-4 minutes.
Alors.
Un appel à toutes les...
Le plus structuré de vous trois.
Alors, bon, deux mots peut-être. Donc oui, effectivement, là, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est la campagne de souscription qui a été lancée dès juin, mais enfin avec l'été, c'était un peu calme. Donc on relance tout ça à partir de maintenant, là, et notre objectif, c'est d'arriver à 500 coopérateurs d'ici la fin de l'année. Donc pour ça, on organise un tas de choses, des manifestations diverses et variées dont viennent de parler Lucille et Stéphane. Et puis, c'est l'occasion, là, aujourd'hui, de lancer un appel à toutes les personnes intéressées pour venir nous rejoindre et prendre des parts dans cette coopérative qui démarre. Voilà, aujourd'hui, on est 210 exactement, hein, je précise.
Il faut doubler le chiffre, c'est ça, ou tripler.
Et il faut qu'on arrive, si on veut que le projet soit viable, il faut qu'on arrive d'ici la fin de l'année à 500 coopérateurs. Ça, c'est pour pouvoir aller discuter de manière un peu plus sérieuse avec les financeurs et tous nos partenaires.
Est-ce que vous avez un site internet, par exemple, où on peut souscrire en ligne?
On ne peut pas encore souscrire en ligne. Il y a beaucoup d'infos sur le site.
Au moins déjà prendre contact.
C'est supercafouch.fr, évidemment.
Et on va sur votre site. Il y a toutes les informations. Il y a vos événements aussi. Il y a vos demandes, vos besoins. Tout est là-dessus.
Et on peut rappeler aussi qu'il n'y a pas que lors des événements que vous pouvez nous rencontrer. En fait, à chaque horaire d'ouverture, ils sont tous en ligne de l'épicerie. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir et vous renseigner.
On
ne
va pas déranger les clients.
On est les clients, on est les informateurs.
Les clients, c'est nous-mêmes.
Donc vraiment, faut pas hésiter. C'est
ouvert à tout le monde, c'est ça. Il faut le rappeler. Il n'y a pas besoin d'être souscripteur
faire ses courses.
Ça, il faut bien le préciser.
Il faut rappeler
faire ses courses. Voilà, rappeler le concept pour que ce soit bien clair.
Alors, peut-être deux mots là-dessus. Donc, c'est une coopérative de consommateurs, c'est-à-dire que c'est un endroit où seuls les coopérateurs peuvent venir. Faire leurs courses.
Il faut bien le préciser, parce qu'on pourrait se dire que ça peut être ouvert à tout le monde, pas le cas.
Voilà, c'est pas ouvert au grand public, tout le monde peut nous rejoindre. Mais pour en faire partie, il faut prendre une part de la coopérative. Alors, juste une précision, la valeur nominale des parts est de 10 euros, et on demande à chaque coopérateur de prendre 10 parts. Voilà. Et il y a la possibilité
C'est
pour ça qu'on est à 100 euros.
Minimum, c'est précis.
Avec une possibilité d'échelonnement dans le paiement, si on veut. Et oui, je ne sais plus où on en était, mais
sur la question d'ouverture à tout le monde, pourquoi ça ne serait pas possible que ça soit ouvert à tout le monde? Tiens, juste une idée comme ça.
C'est notre statut qui veut ça. C'est une question juridique. Là, on peut
mais
pas
même
y échapper.
Au-delà, c'est du bon sens. C'est un ticket d'entrée pour cette formidable aventure où on a les meilleurs produits au meilleur prix. C'est comme la question des 3 heures. C'est parce que on donne tous 3 heures de notre temps qu'on arrive.
C'est un échange de bons procédés.
C'est un engagement aussi.
Je partage de valeur.
Une marque d'engagement.
Sinon, on ne pourrait pas tenir la marge à 23% et les produits ne seraient pas aussi bons et aussi peu chers à terme. C'est ça, en fait, l'objectif.
Il est bon, le chargé de développement. Il est bon. Stéphane, qu'on ne connaissait pas sur les ondes de galère.
Et maintenant, on le connaît.
il remplit bien sa fonction, évidemment. Dans 4-5 minutes, on aura le plaisir de recevoir la structure SOS Méditerranée, mais que Stéphane d'ailleurs connaît très bien. Mais juste avant ça, on va conclure avec vous peut-être un dernier mot à chacun. Si vous le souhaitez en tout cas, et peut-être pour solliciter de nouveau les auditeurs, auditrices à vraiment s'inscrire dans le projet de Super Cafouche. On va rappeler l'adresse également, et puis les événements FRAF du 21 et les portes ouvertes le samedi 28 septembre. Voilà, avec une adresse, ça serait top. Pause musicale et SOS Méditerranée qui rentre juste derrière.
Je vous en prie, allez
avec Lucille.
C'est parti.
Alors, moi, j'ai envie de dire, vous pouvez venir nous voir, venez nous voir, mais n'hésitez pas à nous inviter aussi. On peut très très bien venir présenter en fait la structure
comme sur
chez vous, dans une association, dans votre entreprise, à n'importe quel moment.
Vous êtes disponible à tout moment.
À tout moment. Contactez-nous via le site internet ou la page Facebook. On n'en a pas parlé, mais on est aussi joignable sur notre page Facebook.
Et l'adresse, c'est 14 rue Louis Astouin, dans le 2e arrondissement, près de la porte d'Aix.
Voilà, tout est dit, les événements sont faits, vous devez doubler vos nombres de souscripteurs, voilà, et peut-être un nouveau local à Belzunce.
Voilà, et en fait, quand on dit 500 minimum d'ici la fin de l'année, c'est notamment pour ne pas rater cette opportunité-là de local.
Vous n'aurez pas les moyens d'avoir ce local. Voilà, si Monsieur Godin décide de vous mettre un local à votre disposition.
Mais on va compter sur nous. Donc on a besoin de vous. Rejoignez-nous.
Là, il y a la foire de Marseille. Est-ce que vous n'avez pas un stand? Vous n'avez pas pu avoir un stand pour présenter votre projet?
Non, après, on a d'autres stands ailleurs, notamment ici à la Friche.
À la Friche, vous avez un stand
pour le grand marché. Le prochain, je crois, c'est le 7 octobre. Il me semble que c'est ça.
Oui, on est présent régulièrement
tous les
Friches. Très bien.
Donc, à très bientôt.
À très bientôt. On vous remercie, Anthony.
Merci à vous.
Il y a peut-être encore quelques minutes. Non, c'est
parfait. Merci à l'équipe du Super Cafou d'avoir été sur les ondes de Radio Galère. C'était un vrai plaisir. On reste en contact, évidemment. Et puis on espère se revoir, Bernard, Stéphane et Lucille, probablement aux alentours des fêtes, peut-être décembre ou janvier, pour faire un point sur la suite à venir. Pause musicale et SOS Méditerranée est avec nous sur les ondes de Radio Galère. Enrique Iglesias, et on revient juste après ça. Merci. Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale. Il est 9h30 sur les ondes de Galère et on a le plaisir d'accueillir pendant près de 25 minutes l'association SOS Méditerranée. Voilà. A priori, vous devez avoir un bon retour son et m'entendre parfaitement. On a eu quelques petits soucis ce matin au niveau sonore, on en est désolé, mais le son passait très bien sur la bande FM et sur le site de Radio Galère. On va donc évidemment poursuivre l'émission. Bonjour Sarah, bonjour Philippe. Sarah qui est habituée à venir pour représenter l'association SOS Méditerranée. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bienvenue chez nous évidemment.
Ah, merci, pas... excusez-moi, on n'entend pas.
Je,
tout,
mais... je vous en
c'est
prie.
C'est bon comme ça ?
Oui, là,
voilà,
c'est
là
bon.
C'est bon.
C'est très bien, on vous entend. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour. Et bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Galère. On tenait en tout cas à vous recevoir, évidemment, faire un nouvel éclairage sur la structure et l'association SOS Méditerranée, qui combat depuis des années avec beaucoup de valeurs, d'abnégation et parfois, malheureusement, de complications, évidemment, indépendant de votre volonté. On soutient au maximum, en tout cas, ces opérations de sauvetage en mer. On se rappelle évidemment de l'Aquarius. On veut faire un point. L'Aquarius n'existe plus, mais SOS Méditerranée est toujours là. Et l'Océan Viking a repris le
flambeau.
Le flambeau, exactement. On a beaucoup de choses à dire avec vous. Donc je vais vous laisser la parole, Sarah et Philippe. Vous êtes membres du conseil d'administration de la structure SOS Méditerranée. Ben, nous parler de ce que vous faites actuellement, quels sont les projets à venir. Et évidemment, une grande campagne de soutien, un grand appel aux bénévoles pour soutenir SOS Méditerranée. Voilà, on peut démarrer peut-être aller par Sarah.
Oui, alors depuis août 2019, on a repris nos activités de sauvetage en mer avec l'Ocean Viking, qui est un bateau maintenant de sauvetage qui bat pavillon norvégien et oui. Qui est parti et qui a déjà sauvé des centaines de vies.
Un petit peu regrettable, pardon, je me permets de vous couper Sarah, c'est que on aurait bien aimé quand même la France joue le jeu du pavillon. Bon, c'est pas non plus une condition sine qua non pour poursuivre. Il vous fallait tout simplement un pays qui était rattaché au pavillon.
L'idéal, c'était la France, puisque le bateau partait de Marseille.
Ben évidemment. Mais la France n'a pas joué le jeu. Hein.
On n'a pas été à la hauteur.
On va pas politiser le débat, mais en tout cas, la France n'a pas joué le jeu. Merci pour
la Norvège.
Ben exactement, évidemment. Mais il faut le signer. Nous, on l'a dit souvent sur les zones de galère, sans qu'Assos Méditerranée soit présent à l'antenne, où on développait souvent. Évidemment, la chasse qui est faite aux migrants, les réfugiés, les opérations en mer. Et évidemment, on trouvait ça regrettable que la France n'ait pas joué le jeu, Sarah.
Alors, nous, on ne rentre pas dans ce débat
bien
politique.
Bien sûr, bien sûr.
Après, c'est quand on affrète un bateau, quand on le loue, comme fait SOS Méditerranée, ce bateau a déjà un pavillon.
Tout à fait.
Et là, il se trouvait que nous, la recherche de ce bateau qui a duré 9 mois, elle était sur deux volets, c'est-à-dire un bateau qui soit aussi bien, voire mieux que l'Aquarius. Donc, ce bateau, l'Ocean Viking, on a dû l'aménager pendant 2 mois pour pouvoir... Maintenant, on peut abriter plus de personnes que ce qu'on pouvait sur
oui, voilà,
l'Aquarius.
On a valorisé en tout cas.
Exactement, on avait capitalisé toutes les choses qui étaient positives et négatives sur l'Aquarius, et donc ça nous a aidé dans la recherche de ce nouveau navire.
Génial.
Et en même temps pouvoir avoir un bateau qui est un pavillon fort, c'est-à-dire avec un état fort qui puisse à la fois avoir une histoire par rapport au droit maritime international. Comme la Norvège,
oui.
Et ensuite pouvoir résister à des pressions, aux pressions de certains États pour pouvoir maintenir ce pavillon.
Voilà, donc on félicite la Norvège. Il faut reconnaître que c'est un pays qui est à la hauteur et qui tient ses engagements. D'ailleurs, c'est les pays du Nord aussi ont accueilli le plus de réfugiés, il faut le dire aussi, hein, par rapport aux autres pays européens.
Le modèle scandinave est souvent prôné. Sur pas mal de domaines, mais sur la solidarité,
là aussi, et
il faut le signaler,
c'est
important.
Oui, oui.
Juste un petit appel, et je remercie Olivier d'avoir appelé, en nous disant évidemment, vous voulez pas politiser le débat, et c'est vraiment absolument pas l'objectif ce matin, on est vraiment là pour parler des opérations en cours et de l'après Aquarius, et un grand soutien aux bénévolat, mais il nous demande tout simplement, est-ce que malgré tout les politiques locaux ont essayé de vous soutenir et ont essayé de vous aider même au niveau des associations avec du matériel, de l'hygiène, de l'équipement, est-ce que les politiques locaux ont joué le jeu? Voilà, c'est une question d'un auditeur. On
vous
va
n'êtes
absolument
pas obligé de répondre.
Voilà, on est. Non, mais surtout
si
qu'on
ne
veut absolument pas politiser le débat.
Voilà,
c'est pas
sûr.
L'objectif de Sarah ni de Philippe ce matin. D'ailleurs, Sarah est habituée. On parle très peu de politique quand on parle d'SOS Méditerranée. Et on veut se concentrer en tout cas sur les actions et sur les valeurs que prône l'association.
Alors, pour. C'est Philippe. Lorsque vous parlez de soutien politique, vous. Pensez à quoi ? Des municipalités
Qui arrivent au mois de mars, ouais, probablement, hein, éventuellement.
Voilà,
oui.
D'accord.
Il y en a qui veulent surfer
peut-être,
sur la vague, hein, c'est le cas
peut-être.
De le dire.
Voilà. Pour l'instant, les opérations des SOS Méditerranée sont soutenues essentiellement par une mobilisation citoyenne. beaucoup plus que par des mouvements politiques ou des entités, qu'elles soient municipales ou des... Et donc, moi je suis le trésorier adjoint de SOS Méditerranée et je peux vous affirmer que 98% des recettes engrangées par SOS Méditerranée sur l'exercice 2018 provenaient de dons privés. Et parmi ces dons privés,
énorme.
C'est énorme, et parmi ces dons privés, pratiquement 80% de dons individuels et par ailleurs quelques fondations. Voilà. Mais disons que les soutiens venant d'institutions publiques françaises ne représentaient que 2% de notre financement.
C'est infime, voilà.
Ah oui, c'est tout à fait à la marge.
Très bien, voilà qui est dit.
Après, pardon, sur la question du soutien des associations et au niveau local, SOS Méditerranée, c'est ça, c'est une chaîne de solidarité. Donc au niveau local, on a des associations qui nous soutiennent, ou même des entreprises, juste oui. Par exemple dans le pré de salles pour faire des réunions, par exemple. C'est pour nous, c'est précieux, et puis ça fait vraiment partie de l'ADN de SOS Méditerranée depuis sa création en juin 2015.
Et j'ajouterais que dans l'ADN de SOS Méditerranée, il y a une dimension aussi européenne. SOS Méditerranée est représentée, en fait, est constituée de 4 entités. Une entité française qui est actuellement responsable des opérations. SOS Méditerranée Allemagne également, qui contribue aux frais engagés par dus à toutes ces opérations. SOS Suisse et SOS Italie.
SOS Italie, il faut le souligner, parce qu'on dit souvent du mal de l'Italie, mais ça, il y a aussi des gens sensibles en Italie et qui soutiennent ces actions-là, c'est ça.
Alors, il y a eu dans les mois qui ont, enfin pratiquement depuis, de façon très, très marquée depuis l'été 2018.
Oui. Un revirement
politique en Italie, avec,
heureusement,
voilà, qui a été suspendu là depuis les dernières évolutions politiques durant le mois d'août. Ceci dit, il faut rendre hommage à l'Italie concernant les secours en mer. L'Italie qui a une très longue tradition maritime,
qui était précurseur d'ailleurs au début,
été à l'initiative d'une opération qui s'appelait l'opération Mare Nostrum, qui a été mise en place en septembre ou octobre 2013 à la suite de naufrages absolument dramatiques au large de Lampedusa, et qui a été interrompue à la fois sous la pression d'une opposition interne en Italie qui commençait à être saturée par les arrivées relativement importantes de gens issus de ces naufrages, et par la pression des pays européens qui n'ont pas souhaité prolonger l'opération. Mais c'est une opération qui, malgré tout, en pratiquement 12 mois d'activité, qui a mobilisé donc la marine italienne, les gardes-côtes italiens, c'est une opération qui a permis de sauver la vie de 150 000 personnes.
150 000 personnes, il faut le rappeler.
150 000 personnes. Et en dépit des orientations politiques ensuite qui ont été affichées par l'Italie, la marine et les gardes-côtes italiens ont continué, malgré tout, à procéder à des sauvetages envers et contre la volonté politique de leurs dirigeants.
Voilà, il faut le dire, il faut le souligner. Voilà. Très bien. Voilà qui dit. Très bien. Alors maintenant, on a vu que dernièrement, il y a eu 82 ou 84, je crois, réfugiés qui ont pu finalement aller sur le port de Lampedusa suite à un changement de régime qu'il y a eu en Italie. Ça, c'est aussi une victoire, parce qu'il y avait ce blocus qui était là, qui a empêché de... On a vu avec des capitaines allemandes qui ont été plus ou moins, même qui sont toujours sur le coup d'une accusation. Je ne sais pas où ça en est. Et donc il y a aussi un déblocage qui va servir aussi pour SOS Méditerranée, pour leur sauvetage aussi.
Par rapport à cette évolution, on avance pas à pas, on voit ce qui se passe au jour le jour. C'est compliqué de dire que c'est une victoire, parce que pour l'instant...
Petite victoire, alors.
C'est une avancée. On attend aussi il y a un sommet qui a lieu la semaine prochaine à Malte et qui devrait.
Oui, je l'ai lu en effet. Oui, vous êtes. Il y a beaucoup d'optimisme par rapport à ce sommet ou ça peut être un vrai tremplin ou de vraies attentes ou pas tant que ça.
Il y a des attentes évidemment parce que nous notre plaidoyer c'est qu'il y ait des mécanismes
de répartition
qui soient prévisibles.
Il faut que l'Europe joue le jeu, quoi. Voilà, tous les pays d'Europe jouent le jeu.
Et que ce travail-là, il puisse être fait parce que les rescapés sur un bateau, 3 jours, ça va. Une semaine, 10 jours, ça devient vraiment compliqué.
Oui.
C'est.
J'en profite, Sarah, ce qu'on peut rappeler également, parce qu'évidemment ça génère beaucoup de frais en tout cas de sortir un bateau et de l'entretenir. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 mois quand même pour restructurer, remoderniser et préparer le bateau, ce qui est un délai qui est long mais qui est largement justifié. On rappelle qu'il faut du personnel médical, qu'il faut des bénévoles, des encadrants. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'envers du décor, voilà. Philippe, qui
oui, le bateau en fait, l'Aquarius comme l'Ocean Viking. Un équipage constitué de 3 groupes de personnes. D'abord, l'équipage propre du bateau, qui est salarié de l'armateur, l'équipage technique. Et ensuite, 2 autres groupes qui sont représentés par le personnel de notre partenaire médical, qui est Médecins sans frontières Hollande, 10 personnes, dont des médecins, des sages-femmes, des infirmiers et des logisticiens. Et ensuite, les équipes d'SOS Méditerranée proprement dit, qui sont en fait constituées de marins sauveteurs professionnels qui interviennent lors des sauvetages à bord des petits bateaux qui vont au-devant des bateaux en perdition et qui sécurisent et qui ensuite
les transfèrent
sur le bateau principal. À propos de Médecins sans frontières Hollande, il faut dire que ce sont nos partenaires médicaux à bord et c'est aussi une structure qui soutient financièrement.
Ouais, important de le rappeler.
Voilà, qui soutient financièrement les activités des SOS Méditerranée à hauteur de 50% des frais maritimes engagés.
50%, c'est énorme.
Des frais maritimes engagés.
On parlait à l'époque, Philippe et Sarah, je crois, de histoire de 11 000 euros par jour, en tout cas, pour entretenir de manière globale, en tout cas, le bateau, les sorties, le sauvetage, le médical, la santé, enfin, l'alimentation.
Là, le bateau étant plus moderne, on est à 14 000 euros par jour.
Ah ouais, c'est énorme.
Voilà, là, on a fait une campagne de retour en mer qui s'appelait Back at Sea,
oui,
et qui nous a permis, qui nous permet de récolter les fonds nécessaires pour revenir en mer, maintenir nos opérations. Mais évidemment, les dons doivent
précieux.
Continuer, oui, parce voilà. Que, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est des dons qui viennent des privés, des citoyens européens. Donc c'est vraiment le fuel de.
C'est le sang de
l'Ocean Viking. Oui.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc le SOS Médecins Hollande participe à. Médecins sans frontières Hollande participe à 50% dans ses frais. Ça, alors, c'est quand même c'est remarquable.
C'est important.
Il faut le souligner, ça. Oui.
C'est tout à fait important. Ça ne concerne malgré tout que la partie maritime, c'est-à-dire essentiellement les frais d'affrètement et le gasoil.
Mais c'est conséquent quand même.
Mais c'est conséquent. C'est une contribution qui est indispensable.
Qui est indispensable.
Voilà, tout à fait. Mais en revanche, en complément de cette participation de Médecins sans frontières Hollande, la pérennité des opérations et la pérennité de notre action n'est assurée que par. Pardon, là y est.
Désolé, on a des petits soucis. Je reçois des SMS et je remercie notre réseau. On nous dit que le signal est pas top. Donc on est désolé de la qualité qui est fournie ce matin. On n'y peut absolument rien. Mais on poursuit. On a encore 10 minutes. On nous entend quand même. C'est déjà ça. Voilà.
Allô. On dirait les trompe d'un bateau, ça. C'est,
voilà,
c'est un liquide, ça, non, c'est ça.
Une trompe de brume.
Et après, ce dont on pourrait parler aussi, c'est tout ce qui se passe à terre, parce qu'évidemment, l'argent récolté, il vient du travail qui est fourni par les bénévoles de manière, et les salariés à terre.
Donc vous avez besoin de bénévoles aussi, je suppose.
Oui, oui, complètement. On a près de 500 bénévoles maintenant. On a 17 antennes partout en France. Évidemment, il y a dans les structures SOS Méditerranée en Europe, il y a aussi des bénévoles. La mobilisation citoyenne, c'est aussi un des maillons, les nombreux maillons de la chaîne SOS Méditerranée. Donc si vous souhaitez vous engager comme bénévole, il faut vous adresser à l'adresse contact@SOS Méditerranée et vous serez...
Quel travail, par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir bénévole, qu'est-ce qu'il devra faire alors? Comme ça, c'est pas une idée pour qu'un auditeur...
De la polyvalence en perspective, ou alors on peut être attaché à un secteur prédéfini?
Tout dépend des compétences des bénévoles. Ça va de tartiner des sandwichs sur des stands ou animer des stands dans des expositions ou dans des spectacles organisés par SOS Méditerranée.
On parle de la radio jusqu'à, aussi, par exemple. Aussi.
Jusqu'à participer, par exemple, aux activités de sensibilisation scolaire. Nous avons obtenu l'an dernier un agrément de l'éducation nationale pour sensibiliser les enfants à ce que représentait le secours en mer, mais aussi
le drame des réfugiés.
Le drame des réfugiés, le drame des...
On a l'impression qu'ils sont de plus en plus sensibles quand même. On voit qu'il y a des professeurs aussi qui ont joué le jeu et qui mènent des campagnes grâce à vous et grâce à d'autres assos. On a l'impression que de plus en plus les enfants sont au courant, que ça ne devient plus un cliché de dire « Ah ben on fuit son pays, ouais, mais cliché réducteur, oui mais ça c'est leur problème ». Il y a quand même une compréhension et heureusement une démocratisation peut-être aussi de l'expression, même si évidemment on n'est pas encore tous convaincus par l'éveil des enfants ou des plus jeunes, mais c'est quand même bien que ce travail soit fait et en espérant qu'il soit davantage développé dans les écoles et autres. Philippe, Sarah.
Oui, tout à fait. Et lorsque on disait qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bénévole, et même par exemple participer à ces opérations de sensibilisation scolaire pour diffuser la notion que le droit d'émigrer c'est un droit fondamental, que le droit de demander l'asile lorsqu'on arrive dans un état qui nous accueille, c'est un droit fondamental.
La libre circulation, ça, c'est garanti. Je crois que c'est dans la charte des droits de l'homme que tout
le monde peut circuler. Ouais.
C'est l'article 13. Tout le monde peut circuler librement sur la planète.
Voilà.
Normalement.
Voilà. Et
ça,
à partir
du rappeler,
normalement,
ça.
Oui.
Et
en effet.
Voilà. Le problème, c'est surtout les conditions dans lesquelles se font ces mouvements migratoires, et singulièrement lorsque ces mouvements migratoires se font par voie maritime, ça engendre des drames où notre responsabilité est directement, nous, citoyens européens, directement engagés, dans la mesure où on est tenus de porter secours à ces gens qui se noient, quelles que soient les raisons de leur présence en mer. Mais à partir du moment où ils se retrouvent dans une situation de détresse, il est de notre devoir, à la fois moral mais aussi juridique, de venir leur porter secours.
Oui, devoir de solidarité, c'est important. Il nous reste 5 minutes sur les ondes de Radio Galère, toujours en direct avec SOS Méditerranée, représenté par Philippe et Sarah. Christian, évidemment, toujours au micro avec moi-même, Anthony, pardon. Un mot peut-être sur les... je vous laisse notamment développer les axes que vous souhaitez mettre en avant. On l'a beaucoup évoqué, évidemment, l'appel à bénévoles, les campagnes de soutien. L'après Aquarius, est-ce qu'on se dit plus confiant? Voilà, est-ce que l'espoir est permis? Les relations... Entre les hommes, c'est jamais évident. Comment on voit l'avenir, un petit peu les perspectives en tout cas?
Nous, pendant ces 9 mois sans bateau et en recherche d'un nouveau bateau, le seul but qu'on avait, c'était de repartir en mer parce que les naufrages.
Ça a toujours été votre.
C'était vraiment notre phare quoi dans le brouillard et on y a tous cru de manière très solidaire au sein de l'association. C'était difficile. Après, nous, l'important, c'est de pouvoir maintenir nos opérations en mer. Donc nous respectons ce que nous disent les autorités. Nous avons eu un contrôle du bateau. Tout s'est bien passé. Le bateau est aux normes complètement. Donc on continue nos opérations. Après, on espère que notre expérience, le sérieux et le professionnalisme dans lequel nous opérons nos opérations, on sait qu'elles sont reconnues par les différents États européens et on espère que ça de pouvoir avancer vers des solutions qui sont dignes de l'Union européenne, des États européens et dignes des droits de l'homme.
Ça c'est important de respecter les droits de l'homme. Oui, Philippe.
Oui, ben on a connu effectivement pendant les 12 derniers mois une dégradation des conditions d'exercice du sauvetage en mer, dans la mesure où le fait de sauver les gens à la mer était devenu un crime. L'Italie, tout comme avec la complicité tout à fait active et passive de l'ensemble des pays de l'Union européenne, a organisé l'empêchement de l'activité des bateaux de secours, le nôtre, mais pratiquement tous, ce qui fait que la zone où se produisent les naufrages a été complètement désertée. Il n'y a plus aucun témoin pratiquement depuis 8 mois. Sans rentrer dans les détails, mais le droit maritime a été complètement
bafoué, on peut le dire,
complètement bafoué de façon déterminée
et orchestrée. C'était volontaire
de façon orchestrée volontaire, en tentant par exemple de transférer la responsabilité des secours à un pays qui est complètement défaillant, qui s'appelle donc la Libye, alors que la zone maritime dans laquelle les naufrages se produisent étaient historiquement sous la responsabilité de l'Italie, qui a voulu se décharger de cette responsabilité sur un État qui est complètement failli. Et donc en pratique, il n'y avait plus de coordination, plus rien ne pouvait se faire avec les autorités libyennes. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a avec la possibilité pour l'Océan Viking de débarquer ses passagers à Lampedusa, c'est un signe tout à fait positif et dont on se réjouit. On est encore loin d'une solution adaptée à la situation, qui serait d'anticiper de façon structurée la répartition des naufragés une fois que les bateaux les ont recueillis à bord, une répartition dans les pays européens. On espère que la réunion prévue lundi prochain à La Valette, à Malte, organisera cela. De toute façon, on continuera à plaider pour qu'un dispositif anticipé de répartition des gens soit mis en place, parce que d'immobiliser, une fois que les bateaux ont embarqué des naufragés, ils passent des semaines, ils ont passé pendant toute l'année 2018 et 2019 des semaines à chercher une solution de débarquement dans un lieu sûr, et pendant tout ce temps-là, ces bateaux ne sont pas présents sur les zones de naufrage, et ça se traduit par des milliers de morts.
Des morts anonymes qu'on ne connaîtra jamais, malheureusement.
Des morts anonymes et des morts qui ne sont pas recensées. C'est-à-dire que les chiffres qui ont été avancés par des organisations internationales comme l'Organisation internationale des migrations, qui fait un décompte des victimes identifiées, et sous-estime très largement le décompte en fait. La preuve en est, si c'est peut-être pas une preuve, mais on nous parlait...
Deux petites minutes.
deux petits
livres. Je vous en prie, c'est pour
simplement. Simplement pour vous dire que il lui avait été dit que finalement les dispositions qui avaient été prises par la communauté européenne et l'Italie avaient fini par tarir le flux et tarir le flux migratoire dans l'axe de la Méditerranée centrale et surtout diminuer le nombre de victimes en mer. On s'est aperçu en fait que d'une part le décompte de ces victimes est absolument impossible à faire et d'autre part que lorsque l'Océan Viking, après 8 mois d'absence, a pointé son étrave dans la zone des naufrages. En 4 jours, il a sauvé 346 personnes. Et depuis.
Oui, c'est énorme.
Voilà. Donc ça signifie que cette zone de Méditerranée est toujours.
C'est un cimetière. Il faut le dire, c'est un cimetière marin.
Dans lequel se produit une hécatombe.
Exactement.
Merci Philippe pour cet éclairage. Il me reste une petite minute pour conclure. Le temps passe une allure folle. On rappelle qu'on est en direct avec SOS Méditerranée. Sarah, je vous laisse le dernier mot pour conclure. Et évidemment, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, mais j'insiste, l'après la Corus n'existe plus, mais SOS Méditerranée existe toujours. Et l'Océan Viking, avec encore plus d'enthousiasme, encore plus d'engouement, est toujours présent. Et il faut absolument
s'investir et soutenir
SOS Méditerranée. N'hésitez pas, il y a des campagnes de soutien, il y a des crowdfunding qui se font à droite et à gauche, il y a des pétitions à signer, enfin voilà, n'hésitez pas, c'est très important.
Oui, et vous pouvez venir nous rencontrer sur des événements. Le prochain événement où on sera, ce sera le Festival de la Caricature à l'Estac, dont vous avez peut-être parlé sur vos antennes.
Tout à fait.
Ce sera le week-end du 28.
C'est le dernier week-end de septembre.
Exactement.
Oui.
Donc on y est présent et puis sur de nombreux festivals partout en France, oui. De nombreux événements.
Exactement, c'est important de le rappeler. On doit conclure. Oui, Philippe, en 30 secondes. Si
simplement, un mot du trésorier adjoint qui encourage chacun à soutenir de façon pérenne les choses par de petits dons réguliers. Allez sur le site, vous comprendrez.
Exactement. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Philippe, merci à SOS Méditerranée. Bon vent à vous. Jeu de mots est facile, mais en tout cas, un grand soutien pour vos actions et bravo à tous les bénévoles qui font un travail remarquable d'investissement et en plus il y a des personnes qui maîtrisent et structurent les sujets et les propos et ça c'est quand même important.
Voilà, le micro de Radio Galère est toujours ouvert pour SOS Méditerranée.
Ah, tout à fait.
Merci de votre invitation.
Quand vous voulez, bien entendu.
Merci à vous.
C'est une évidence. L'émission touche à sa fin. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir été fidèles au 80.4. Merci pour vos réactions. On est désolé pour les petits problèmes qu'on a eus, les dysfonctionnements. Vraiment désolé. Et d'ailleurs, on s'excuse auprès de nos invités parce que parfois le son est monté un peu trop haut, mais je n'y pouvais rien. Je suis désolé. Je sais que malgré tout, l'écoute a été plutôt bonne puisque j'ai
globalement positive quoi.
Comment?
Globalement positive,
mais ça nous arrive très peu, nous allons arriver 2 fois par an, c'est tombé aujourd'hui, donc on en est désolé, mais on va y remédier, puis les techniciens font du boulot remarquable. Merci à toutes et à tous, restez fidèles au 88.4. Dans 2 petites minutes, c'est l'émission, la rediffusion de l'émission, notre ami Jean-Pierre Brunduc, qu'on salue, l'Agora, une émission qui a lieu tous les mardis de 13 à 14 et la rediffusion a lieu donc dans 2 minutes la semaine prochaine. Nous on se retrouve à la même heure, le même jour, mercredi, pour notamment parler et recevoir le syndicat Sudrail de la SNCF, qui viendra nous parler aussi des dysfonctionnements.
Et voilà. Rappeler que la manifestation le 21 septembre,
oui,
pour le climat,
pour
c'est
le
très
climat.
Très important aussi, parce que les réfugiés vont venir aussi par rapport au climat. C'est les réfugiés climatiques.
Tout à fait.
Ce qui va
merci
pas
à toutes
choses.
Et à tous. Restez fidèles au 88.4. Au revoir Sarah, au revoir Philippe.
Au revoir.
Merci.
Enfin, riques patron de Cassian, d'un gros pastre. Son plan est le soleil, Montevès et l'espoir. Il y a déjà 50 ans que liège dans les astres. Mon syllabé d'or, galice de l'amour. Mais la ville est scabouée, l'ouéi de la vagueno, de quella de la nerde, à la baume au bourbon. Le soir, caille de vina, les secrets de la lune. Sur la bataille de Nioulon. Les capellans t'y dien, cantaras de grand messe, du rang lì c'è culà, se vas al paradiso. Ma son gioca all'inferno, la porta è sprunga spesso, e si passa che un com, se si può non leva di. Lo signor nostro Dio,